OA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 28 avril 2016. Au sommaire ce soir, Teodoro Obiang Nguema, réélu président de la Guinée équatoriale avec plus de 93% des voix. L'état d'urgence prolongé de 3 mois dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger. Disparition de militaires et policiers au Tchad. Amnesty International demande une enquête. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les dernières sanctions qui pesait sur la Côte d'Ivoire. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Eh bien, Morgane, en Guinée équatoriale, sans surprise, Teodoro Obiang Nguema est réélu président. Au pouvoir depuis 1979, il a raflé 93,7% des votes, selon les résultats provisoires, rendu public par la Commission électorale nationale.
L'état d'urgence prolongé de 3 mois dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger. Le gouvernement justifie cette décision par la menace élevée due aux attaques de Boko Haram dans cette zone frontalière du nord-est du Nigeria, considérée comme le fief des islamistes. L'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Il a été instauré en février 2015 après les premières attaques de Boko Haram contre le Niger.
Au sujet du groupe islamiste, toujours la France et le Nigeria ont signé aujourd'hui une feuille de route sur leur coopération militaire, notamment en matière de renseignement, afin de renforcer la lutte contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. La lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, notamment la piraterie, est également au cœur de cette coopération militaire.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les dernières sanctions qui pesaient sur la Côte d'Ivoire depuis 12 ans et a confirmé que la mission onusienne dans le pays se retirerait définitivement en juin 2017. Idriss Fall.
La résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. L'embargo sur les armes décrété en 2004 et les sanctions ciblées comme le gel des avoirs et les interdictions de voyager sont levées avec effet immédiat. L'embargo a déjà été assoupli en 2012 pour permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de s'entraîner. Le président Alassane Ouattara avait réclamé qu'il soit totalement levé dès son élection en octobre dernier. Côté économique, l'ONU avait levé en 2014 l'embargo sur les ventes de diamants ivoiriens. Par ailleurs, le Conseil a décidé que le mandat de l'ONUCI sera prorogé pour une période prenant fin le 30 juin 2017. Les effectifs militaires de la mission doivent passer de près de 4000 actuellement à 2000 d'ici au 31 août 2016. À son apogée en 2012, elle comptait près de 10 000 casques bleus.
Concernant toujours la Côte d'Ivoire, la Cour d'assises d'Abidjan jugera en mai ou juin Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, pour crime contre l'humanité. C'est ce qu'indique l'AFP, citant une source judiciaire.
Et disparition d'une vingtaine de militaires et policiers au Tchad depuis la présidentielle. Amnesty International tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités l'ouverture d'une enquête indépendante. Le bilan pourrait être plus lourd, puisque des médias parlent de plus de 40 membres des forces de défense et de sécurité disparus depuis le 9 avril, jour de vote pour les militaires. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Élection en Gambie, le parti au pouvoir et les formations d'opposition s'engagent à des activités politiques pacifiques et à la tenue d'élections libres. Ils ont fait paraître un communiqué conjoint. À noter toutefois que cette annonce intervient alors qu'une trentaine d'opposants sont toujours détenus à la suite de manifestations.
Possible levée de l'embargo sur les armes en Libye, le ministre italien des Affaires étrangères s'est dit favorable à une telle mesure pour soutenir le gouvernement d'union à Tripoli.
La dépouille de Papa Wemba, le roi de la rumba, est arrivée à Kinshasa. Les obsèques officielles du musicien décédé à Abidjan débutent lundi prochain dans la capitale congolaise. En attendant, le corps sera gardé à la morgue dans un hôpital sur place. Cyril Milandou.
L'émotion était vive à l'arrivée de la dépouille de l'artiste musicien Papa Wemba à Kinshasa. Des milliers de Kinois ont pris d'assaut la principale artère qui part de l'aéroport international de Njili jusqu'à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et puis, cette dernière info du Burkina Faso, la Cour de cassation du pays a levé le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé ce soir Radio Omega, citant des sources judiciaires. Ce mandat avait été émis le 8 janvier dernier, en rapport avec l'affaire du putsch de septembre 2015.
Et en Syrie, au moins 18 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans des bombardements rebelles sur 5 quartiers gouvernementaux à Alep. 20 autres, dont 3 enfants, ont trouvé la mort dans des raids du régime contre 2 quartiers rebelles, dont celui très populaire de Bustan al-Qasr. Les précisions de John London.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé ce bilan. Les secouristes recherchaient toujours d'éventuels survivants sous les décombres. La veille, les raids avaient déjà causé la mort d'une trentaine de personnes, dont le dernier pédiatre exerçant dans le secteur rebelle d'Alep. Ces frappes ont notamment visé l'hôpital d'Al-Quds, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge ont condamné l'attaque contre cet hôpital. Durant ces dernières 48 heures, un Syrien est mort toutes les 25 minutes, a dénoncé l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Il s'est dit convaincu que le cessez-le-feu, mis en place le 27 février sous l'égide de Moscou et Washington, pouvait s'effondrer à tout moment. Il a donc appelé mercredi soir les deux parents de cette trêve, devenus moribondes, de prendre une initiative urgente.
Le vice-président américain Joe Biden est en Irak pour des entretiens avec les leaders de ce pays. Cette visite surprise est axée sur la nécessité d'encourager l'unité nationale et la poursuite de la lutte contre le groupe État islamique. Le climat politique est actuellement tendu en Irak en raison des efforts du Premier ministre Abadi pour créer un gouvernement de technocrates afin de mieux lutter contre la corruption.
Les autorités irakiennes ont fermé le bureau d'Al Jazeera à Bagdad, accusant la chaîne satellitaire qatari d'incitation à la violence et au confessionnalisme. La chaîne, qui est basée à Doha, a assuré mercredi dans un communiqué ne pas avoir violé les règles et ne pas s'être détournée d'une couverture professionnelle et objective.
En Italie, le parquet de Milan a annoncé l'arrestation d'un couple de 2 jeunes marocains soupçonnés d'avoir envisagé des attentats terroristes sur le sol italien. Le couple, une Italienne convertie à l'islam et son mari marocain, voulaient partir combattre en Syrie en amenant leurs 2 jeunes enfants. Le suspect ciblait apparemment Rome, qu'il qualifie de lieu de référence pour tous les chrétiens.
Le secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé par l'adoption en Europe de politiques restrictives concernant les migrants lors d'un discours devant le Parlement autrichien. Nathalie Barge.
Je suis préoccupé par le fait que les pays européens adoptent aujourd'hui des politiques de plus en plus restrictives concernant l'immigration et les réfugiés, a déclaré Ban Ki-moon ce jeudi devant le gouvernement et les parlementaires autrichiens. De telles politiques vont à l'encontre des obligations des États envers le droit international, le droit humanitaire et le droit européen, a souligné M. Ban. L'Autriche a instauré mercredi la possibilité de décréter un état d'urgence migratoire, un régime permettant de suspendre de facto le droit d'asile. Ban Ki-moon a rappelé toutefois avoir été très impressionné par les moyens que l'Autriche a déployés l'automne dernier pour accueillir les migrants. L'Autriche a accueilli 90 000 réfugiés en 2015, soit plus d'1% de sa population. Elle a depuis progressivement refermé ses portes dans un contexte de poussée de l'extrême droite qui a vu le candidat du parti FPO, Norbert Höfer, arriver en tête du premier tour de l'élection présidentielle le 24 avril avec 35% des suffrages.
En Chine, le Parlement a adopté une loi très controversée qui impose un contrôle renforcé aux ONG étrangères. La police pourra ainsi annuler l'enregistrement de toute organisation qui, selon elle, porte atteinte aux intérêts nationaux ou menace les intérêts de la société. L'initiative avait déjà provoqué une levée de boucliers d'organisations caritatives et de gouvernements étrangers, s'inquiétant des pouvoirs accrus donnés à la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'État du Sénégal a signé deux accords avec un groupement turc pour terminer dans 8 mois les travaux du nouvel aéroport à 42 km à l'est de Dakar. Ces travaux avaient débuté en 2007 par le géant saoudien du BTP Bin Laden Group. Ce groupement turc a aussi obtenu une concession de 25 ans pour l'exploitation de cet aéroport, dont la mise en service est prévue en avril 2017. La Banque mondiale a suspendu certains de ses prêts au Mozambique. Ceci intervient après la découverte de près d'1,4 milliard de dollars de dettes cachées. L'approbation de nouveaux prêts pour le développement est retardée en attendant une nouvelle évaluation de la viabilité de la dette du pays qui sera menée conjointement avec le FMI. Enfin, la croissance économique aux États-Unis a ralenti plus sévèrement que prévu au premier trimestre, marqué par une baisse des dépenses des consommateurs et une chute des investissements des entreprises. Conséquence, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 9 000 la semaine dernière.
Les sports, Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, rebonsoir Idrissa.
Alors, on commence par la politique et les sports. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras, et ça concerne la présidentielle de 2017 au Libéria, l'ex-footballeur George Weah, qui est sûr de ses chances.
Oui, Mr. George, comme on l'appelle, l'opposant et ex-star du football international, a affirmé ce jeudi être certain de remporter l'élection de 2017, quelques heures seulement avant d'annoncer officiellement sa candidature devant ses partisans. George Weah, âgé de 49 ans, a déjà été candidat à la présidentielle de 2005, battu par Ellen Johnson Sirleaf, la présidente actuelle, puis de nouveau en 2011 en tant que prétendant à la vice-présidence sur un ticket présidentiel, avant de se reconvertir en politique, il faut dire. Mr. George a été une star du football, notamment récompensé du Ballon d'Or en 1995, un trophée qu'il est jusqu'à présent le seul Africain à avoir obtenu.
Seconde demi-finale de la Ligue des Champions hier soir en Europe.
Oui, implacable au rouleau compresseur en Espagne et en Europe, l'Atlético Madrid a continué à bousculer l'ordre établi contre le Bayern Munich. Victoire 1-0 des Cocholineros sur leur pelouse de Vicente Calderón.
Les demi-finales allées d'Europa League promettent spectacle et suspense ce soir.
Oui, c'est tout à l'heure, avec ce déplacement du FC Séville, un double tenant du titre au Shakhtar Donetsk et celui de Liverpool, les Anglais de Liverpool, de Jurgen Klopp à Villarreal.
Le patron de la FIFA salue l'exploit de Leicester.
Oui, Leicester, ce petit poussé en passe de remporter la première ligue anglaise, un compte de feu qu'a donc salué le président de la FIFA, Gianni Infantino. Pour lui, c'est une illustration de la magie du football. Leicester, en tête du championnat d'Angleterre, a 3 journées seulement de son terme, avec 7 points d'avance sur Tottenham. Son plus proche poursuivant n'est plus qu'à une victoire d'un titre historique.
Alors, la NBA, le championnat de basketball nord-américain et les playoffs.
Voilà, on commence par la conférence Est avec cette victoire de Charlotte sur Miami à domicile, 90-88. Charlotte mène, il faut le dire, 3-2 face à Miami.
Défaite aussi des Los Angeles Clippers à domicile face à Portland, 108-98 dans la conférence Ouest. Bagassi?
Oui, Portland mène, il faut le dire, 3-2 face aux Los Angeles Clippers. À Oakland, les Golden State Warriors ont défait donc Houston 114-81. Golden State vainqueur 4-1 et qualifié donc pour les demi-finales de la conférence. Une seule rencontre au programme ce jeudi soir en NBA. Le match 6 entre Atlanta et Boston, qui pourrait permettre aux Hawks de filer en demi-finale de conférence. Est-ce que votre équipe est toujours en jeu, Idrissa?
Elle a été éliminée.
Elle c'est laquelle, même, Washington?
Elle n'était même pas parmi les équipes...
Vous parlez de Washington?
Washington Wizards.
Bonne chance.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Diriek et Idrissa Seydoudia en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Tchad.
Oui, le Tchad où plus de 20 familles sont sans nouvelles de leurs proches depuis le 9 avril dernier, le jour de la présidentielle. Ces personnes disparues font partie des forces de défense et de sécurité. Amnesty International et la Ligue tchadienne des droits de l'homme ont confirmé plus de 40 disparitions. Que serait donc le mobile? Eric Manirakiza a joint à Dakar la chargée de campagne auprès d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, Balkissa Idé-Sido.
Ces personnes sont allées voter. Donc, certains ont informé leurs femmes, leurs frères qu'ils vont voter. D'autres ont demandé l'autorisation à leur supérieur hiérarchique en disant qu'ils vont voter. Et depuis ce jour, on ne les a plus revus. Des membres de leur famille ont essayé de les contacter au téléphone. Pour certains, c'est passé sans qu'on décroche. Pour d'autres, notamment dans un cas, la femme est tombée sur quelqu'un qui a décroché et qui l'a menacée. Et sur la chaîne de télévision nationale, le 21 avril, 4 des personnes qui étaient portées disparus ont été présentés. Mais nous, notre inquiétude et ce que nous demandons en fait, c'est où sont passés les autres? Pourquoi les membres de leur famille n'arrivent pas à entrer en contact avec ces personnes?
Le vote est tenu secret. Comment ces personnes ont-elles été identifiées pour avoir voté à notre candidat que le président sortant, Idriss Déby?
Très intéressante parce que nous avons eu à parler à certains membres des forces de sécurité et de défense qui avaient été arrêtés, violentés et détenus ce jour-là, le 9 avril. Donc ces personnes nous ont expliqué qu'en fait, bien qu'il y avait des isoloirs dans les bureaux de vote, ces isoloirs n'étaient pas utilisés. Donc il y avait un commandant de l'ANC et également un agent des services de renseignement qui, les deux se tenaient devant l'isoloir. Et quand ils voulaient rentrer pour faire leur choix, on les interpellait, on leur demandait « Est-ce que tu es policier? Est-ce que tu es gendarme? Est-ce que tu es militaire ?» Quand ils répondaient, on leur disait « Pourquoi alors tu ne veux pas voter devant nous ?» Voilà, nous sommes tous les mêmes. Donc quand ces personnes essayaient de résister, essayaient de vouloir quand même aller dans l'isoloir voter, dans un cas, il nous a dit qu'on lui a pris son bulletin de vote, sa carte d'électeur, et on l'a conduit directement en cellule. Certains nous ont reporté qu'il y en a qui ont osé voter devant ces deux personnes-là et qui ont été bastonnées.
Est-ce que ces personnes disparues ont-elles été enlevées ou arrêtés quelque part? Y a-t-il des témoins qui ont assisté à leur arrestation?
C'est justement la question. Hein. C'est vraiment ce que nous demandons aux autorités. Où sont ces personnes? Si elles sont en détention, que leurs familles soient informées où est-ce qu'elles se trouvent, qu'elles sont en détention ou pas. D'ailleurs, les familles ont le droit de savoir où se trouvent leurs bien-aimés parce que là, ces familles sont dans l'angoisse. Si jamais certains sont en détention, qu'il y ait des charges claires qui sont retenues contre elles et que ces personnes, si ces charges sont justifiées, soient traduites en justice.
C'était de Dakar, Balkissa Idé-Sido d'Amnesty International.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Des membres de la société civile burundaise ont rencontré aujourd'hui au siège de l'ONU à New York Adama Dieng, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la prévention du génocide. Après le vote par le Conseil de sécurité en faveur de l'envoi d'une force de police de l'ONU au Burundi, plusieurs ONG burundaises, africaines et internationales demandent un déploiement rapide d'une telle force pour protéger la population. À New York, Jacques Aristide s'est entretenu avec le célèbre défenseur des droits humains burundais, Pierre Claver Mbonimpa.
Bon, le message que nous voulons porter au monde, c'est que d'abord, New York, c'est le siège des Nations Unies. Les Nations Unies sont chargées de la sécurité de tout le monde. Alors au Burundi, il y a des violences, il y a des tueries, des assassinats, des tortures, toutes sortes de crimes. Alors nous sommes venus ici pour mettre de la lumière aux Nations Unies, pour que les Nations Unies viennent secourir le peuple burundais qui continue à mourir aujourd'hui comme des mouches sans assistance. C'est le but de notre mission ici à New York.
tuerie, violence, mais le pouvoir dénonce lui aussi ces violences en montrant du doigt des mouvements armés qu'il accuse d'être liés à des politiciens qui veulent, dit-il, diviser le pays. Le gouvernement évoque par exemple les assassinats en série à la tête de l'armée, dont celui du général Cararuza lundi, de même que le récent attentat manqué contre un ministre et son épouse. La responsabilité est-elle donc partagée ?
La responsabilité incombe toujours au pouvoir, au gouvernement, parce que tout pouvoir, tout gouvernement est là pour protéger le peuple. Si ce pouvoir n'est pas à mesure de protéger son peuple, c'est-à-dire que ce pouvoir est défaillant, il n'a pas de raison alors à ce que ce gouvernement continue à diriger le peuple.
Mais il y a des gens que le gouvernement qualifie de terroristes.
Le gouvernement, c'est son pouvoir de lutter contre le terrorisme. Nous voyons ici même à New York, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, ils luttent toujours contre le terrorisme. Ce n'est pas le gouvernement qui devient terroriste.
Pierre Claverne Bonimpa, fondateur de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues. Pour retrouver l'intégralité de cette interview, ne manquez pas Washington Forum avec Jacques Aristide.
Le Niger maintenant, l'opération Ville Morte annoncée par les organisations de la société civile a été très peu suivie. Les transports urbains et les centres commerciaux ont fonctionné. Le mot d'ordre avait été lancé par le collectif Résistance Citoyenne qui entendait ainsi protester contre l'instauration, et je cite, « d'une dictature dans le pays par les autorités réélues récemment ». Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Tous les transports urbains ont fonctionné normalement ce jeudi à Niamey. Il en est de même pour les grands centres commerciaux où la quasi-totalité des boutiques ont ouvert, au grand marché de la capitale notamment.
Je m'appelle Mokhtar Jibouali, j'ai ouvert. Parce que moi, je ne suis pas au courant des villes mortes, vraiment.
Et dans la ville, est-ce que les gens respectent le
monde ? Dans la ville, tout le monde est dans son actif.
Je m'appelle Seyna Adamou, au grand marché Monégo.
Je m'appelle Seyna Adamou, je suis au grand marché.
J'ai pas ouvert parce que j'ai respecté le mot d'ordre lancé par la résistance citoyenne. Et puis, je suis avec eux à 100%. Ce qu'on veut, nous ne devrons pas ouvrir parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce marché. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez que nous sommes en Afrique, les gens sont ce qu'ils sont. Maintenant, je suis en partance pour la maison. Je suis venu juste pour voir ce qui se passe dans le marché. Et je suis prêt à observer cette ville morte, même si c'est demain.
J'ai pas été informé. Je n'ai rien comme information.
Ceux qui ont appelé à cette ville morte, ils disent qu'il n'y a pas de démocratie.
Ah, si on appelle l'histoire de la démocratie, nous sommes des commerçants.
Timba Idrissa est responsable d'une des structures de conducteurs de taxi de la ville de Niamey. Dans son taxi, plein de clients, il regrette de n'avoir pas été associé au mouvement.
L'information n'a pas passé. Et au niveau même de l'organisation, vous savez que dans le secteur transport, aujourd'hui, le mouvement le plus organisé, surtout dans le transport urbain, c'est le collectif des syndicats du secteur de transport. Et malheureusement, ce collectif-là n'a pas été associé. Je déplore cela. Nous sommes de cœur avec la société civile. Nous sommes vraiment de cœur, à 100% de cœur. Mais quelque part, il y a un dysfonctionnement parce que le message n'a pas passé.
Au niveau du collectif, l'on reconnaît cet échec. Abbas Abdelaziz est un des responsables.
C'était une décision qu'on avait prise rapidement. Et vraiment, avec ces coupures intempestives courantes, et les gens ne suivaient pas pratiquement les télévisions, n'écoutaient pas les radios. Vous voyez, on a eu un problème de communication. Et en plus, de l'autre côté, le pouvoir a mis un mécanisme en place d'intimidation, de menace. Ce n'est pas à notre attente. On a voulu que ça soit mieux que ça. Ce n'est pas peine perdue. Quand même, il y a la prière de demain pour qu'il n'y ait pas la dictature au Niger. Et en plus, la marche de samedi.
Mercredi dernier, le collectif Résistance Citoyenne a publié une liste de 10 revendications pour justifier ses actions. Une d'entre elles est la démission de la Cour constitutionnelle ainsi que la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Non au terrorisme, oui aux droits de l'homme. Tel est le thème d'une campagne lancée en Tunisie et signée par 46 organisations tunisiennes et internationales. Le but est de prouver que la lutte antiterroriste est compatible avec le respect des droits de l'homme. Maïli Seguel a joint Amna Ghelali, représentante de Human Rights Watch en Tunisie.
Cette campagne est le fruit d'une réflexion de beaucoup d'ONG tunisiennes et internationales, parmi les plus importantes qui opèrent en Tunisie. Elle vient répondre à un discours qui devient de plus en plus dominant dans les médias et qui prend de l'ampleur dans l'esprit de l'opinion publique, qui est celui de dire il n'y a pas de droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Donc suite aux attaques nombreuses qui ont eu lieu en Tunisie, donc il y a eu le Bardo, il y a eu tous deux attaques massives contre des touristes, des attaques quotidiennes contre les forces de l'ordre. L'opinion publique est de plus en plus hostile aux défenseurs des droits de l'homme qu'elle assimile à des gens qui défendent les terroristes. Donc nous, en tant qu'organisation justement des droits de l'homme, on a voulu répondre à ce discours, montrer les amalgames, montrer les approximations qui le sous-tendent. Et c'est pour ça que l'on a choisi ce slogan pour inverser cette idée qu'il n'y a pas de droits de l'homme dans la lutte antiterroriste en disant non au terrorisme, oui aux droits de l'homme. Ce slogan, il marque bien notre opposition bien sûr à toute forme de terrorisme qui est le contraire même des droits de l'homme. Mais en même temps, nous disons à l'État et aux forces de l'ordre que dans cette lutte, il ne faut pas utiliser n'importe quel moyen, que les moyens sont importants et que ces moyens doivent correspondre à l'État de droit et au respect des droits de l'homme. Nous, notre rôle, c'est de dire que même dans le cadre de la lutte antiterroriste, qui est une lutte féroce, il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées. On ne torture pas. On n'arrête pas les gens de manière arbitraire, on n'arrête pas les gens sur la base d'un soupçon qui n'est pas fondé. Il y a un droit à un procès équitable, il y a les droits de la défense. Tout ça fait partie des principes des droits de l'homme qui doivent être appliqués même en matière de terrorisme.
Ça veut dire qu'il y a eu des abus ?
Il y a eu des abus, il y a toujours des abus en matière de lutte antiterroriste, pas seulement en Tunisie, un peu partout dans le monde. Ces abus se traduisent par beaucoup d'arrestations arbitraires, par des incidents où il y a eu des allégations de torture. Vu la fragilité de la construction démocratique en Tunisie, vu le passif d'un État policier, vu l'absence de réformes profondes des forces de sécurité, tout ça fait qu'on a peur que la lutte antiterroriste ne soit qu'une manière de restreindre les libertés. Et c'est ce que nous cherchons à éviter au maximum en faisant cette campagne. Ce qu'on veut interpeller surtout, c'est l'opinion publique qui est dans une espèce de rejet des droits de l'homme, qui pense qu'il faut une lutte acharnée à n'importe quel prix contre le terrorisme. L'opinion publique est importante parce que c'est elle qui va générer ou pas une adhésion à ces principes-là, qui va soutenir les principes démocratiques, etc.
Amna Ghelali, représentante de Human Rights Watch en Tunisie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Bien, c'est la fin de cette édition. Elvin Sangano a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Nashwan Calais à la console. À la présentation, Morgane Guiriec et Idrissa Sedoulia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.